Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet espace de discussion. Aujourd'hui, la lutte contre le glaucome en Côte d'Ivoire au centre de notre espace d'échange. Le glaucome est une maladie chronique de l'œil due à des lésions du nerf optique. Pour en parler justement, nous serons avec Dr Neyan Kouya, médecin colonel ophtalmologiste, par ailleurs président de l'Association des personnes atteintes de pathologies à cécité évitable de Côte d'Ivoire. Bonjour Dr Neyan.
Bonjour madame.
Tahan Nathalie du Programme national de santé oculaire, bonjour.
Bonjour Sonia.
Beiri Apollinaire, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes de la Fédération des aveugles et mouvements associés de Côte d'Ivoire Pharmacie.
Tout à fait. Merci beaucoup, madame.
Dans un instant, vous partagerez avec nous votre témoignage en tant que personne atteinte de cécité due au glaucome, c'est bien cela ?
Tout à fait.
D'accord. Merci. Également pour son témoignage sur le glaucome, Nguessan Amon-Louise. Bonjour.
Bonjour, madame.
Merci à tous d'être là.
Sujet de discussion.
Rappelons-le, aujourd'hui nous parlons de lutte contre le glaucome en Côte d'Ivoire. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un glaucome, docteur Neyan ?
Merci madame. Le glaucome, donc, c'est une maladie oculaire qui est due à l'atteinte du nerf optique et qui se caractérise par des déficits du champ visuel. Et cette atteinte du nerf optique, elle évolue progressivement. Si on ne la traite pas à temps, le malade devient aveugle de façon définitive.
Quels sont les facteurs de risque du glaucome ?
C'est la pression à l'intérieur de l'œil qui augmente. Cela est dû à la mauvaise circulation d'un liquide que nous appelons lumière aqueuse, qui nourrit des éléments de l'œil que sont le cristallin et la cornée. Ce liquide donc apporte des nutriments à ces deux parties de l'œil et son évacuation n'est pas bien régulée et c'est du fait de la stagnation qui augmente la pression dans l'œil et cette pression donc agit en arrière sur le nerf optique qu'elle détruit progressivement. Ça c'est le facteur de risque qui est mesurable et qui est essentiel.
Alors, sur ce point, vous parlez de la pression interne de l'œil. Est-ce que c'est pareil que la pression artérielle ?
Non, c'est pas pareil. La pression artérielle, c'est la pression qu'on trouve dans les vaisseaux et qui est le fait du cœur.
D'accord. Pour ne pas prêter à confusion, justement, il fallait qu'on relève ce point. Concernant les réalités en Côte d'Ivoire, Tahan Nathalie, on rappelle que vous êtes du Programme national de la santé oculaire, précisément.
Je suis chargée de la promotion de la santé oculaire et des relations publiques au programme. Il faut dire que le glaucome en Côte d'Ivoire atteint une multitude de personnes. De par son mode de survenue, nous ne pouvons pas vraiment circonscrire ce nombre-là. Mais nous savons que c'est autour de 4% de la population qui serait touchée, 300 000 à 500 000 personnes. Mais il faut dire que les populations ivoiriennes ne consultent pas très souvent l'ophtalmologiste pour en faire un dépistage précoce. Très souvent, quand on découvre la maladie, c'est à un stade avancé et les séquelles sont souvent irréversibles.
D'accord. Alors, avant de parler des symptômes avec vous, docteur Neyan, Nguessan Amon-Louise, comment est-ce que vous avez su pour la maladie ?
Je sais qu'une nuit, je me suis réveillée, je sentis que l'œil gauche ne voyait pas bien par rapport à l'œil droit. Deux ou trois fois comme ça, c'était en 2004. Je suis allée consulter un médecin. C'est lui qui m'a dit, après un champ visuel, malheureusement, madame, vous avez le glaucome. Je dis, mais le glaucome, qu'est-ce que c'est ? Donc, il m'explique ce que c'est que le glaucome. Mais je suis arrivée un peu, je dirais tard, parce que l'œil gauche n'en pouvait plus rien faire. Et l'œil droit déjà avait commencé à souffrir aussi. C'est comme ça que je suis que j'avais le glaucome. Mais avant cela, je peux vous dire que je n'ai pas senti même un mal, rien du tout. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que c'est un tueur silencieux. On appelle le plus souvent en griffe le voleur de la vue.
D'accord. En ce qui vous concerne, Beiri Apollinaire.
Moi, depuis l'âge de 11 ans, j'avais perdu déjà mon œil gauche. Et c'est en 86.
Du fait du glaucome,
non,
toujours ?
Non, d'un accident.
D'accord.
Un accident. Il y a un métal qui est entré dans mon œil. Et quand je devais passer un examen, c'était, je crois, le probatoire, en 81, je me suis retrouvé les yeux fermés. Et au deuxième jour de l'examen, la feuille était devenue toute blanche. Je ne voyais plus les écritures. Et ça traînait comme ça jusqu'à 91. Je rencontrais un médecin qui m'a dit qu'effectivement j'avais un glaucome. Bon, qu'est-ce que c'est? Je savais pas. Il m'a dit que j'avais une tension dans l'œil qui faisait que j'avais une douleur dans l'œil, mais des céphalées qui n'en finissaient pas. Et c'est comme ça que j'ai été donc orienté dans une institution pour une prise en charge.
D'accord. Voilà. On aura bien sûr le temps de parler de la prise en charge, du traitement et tout. Mais docteur Néant, quels sont les symptômes? C'est vrai qu'ils en ont parlé.
Je me réjouis du fait que M. Thierry ait partagé son expérience. L'œil qui a été atteint, ça s'est manifesté par des douleurs. Alors ça, c'est une forme de glaucome qu'on appelle le glaucome aigu. Et c'est une forme qui est relativement rare. Mais le glaucome chronique à angle ouvert, qui est le plus fréquent, est asymptomatique. C'est-à-dire que le malade ne ressent rien qui puisse évoquer le glaucome. Et c'est souvent à un stade très avancé, c'est là qu'on découvre le glaucome, en découvrant qu'il a la tension oculaire élevée. La tension de l'œil varie de 8 à 22 mm de mercure. Mais malheureusement, il y a des glaucomes sans tension, c'est-à-dire ils n'ont pas de tension au-delà des normes, à savoir 22 mm de mercure. Et c'est la forme, comme on dit dans notre jargon, le glaucome à pression normale, et c'est le nerf optique qui souffre dû à d'autres facteurs.
Est-ce que le glaucome est héréditaire?
Oui, quand quelqu'un a le glaucome, il y a des chances qu'il fasse des enfants qui peuvent avoir le glaucome également. Et puis, les sujets qui sont myopes sont des sujets à risque. Ce sont des gens qui ne voient pas de loin, mais qui voient facilement un peu mieux de près. Ils portent des lunettes pour mieux voir. Alors, le glaucome, donc, c'est une maladie qui touche toutes les races. On s'est rendu compte qu'elle est plus fréquente sur le noir. Ouais. Les races noires, aussi bien nos frères américains que la population noire d'Afrique.
Tant qu'on a la peau noire,
on est susceptible d'avoir des risques. Et puis, ceux qui ont des problèmes pour dormir, l'apnée du sommeil, la respiration se coupe au cours de leur sommeil, ils sont aussi sujets au glaucome.
Ceux qui ronflent?
C'est ça, voilà.
D'accord. Parlons de facteurs aggravants aussi.
On fait attention, s'il n'y a pas de maladie associée, le diabète et puis l'hypertension artérielle, du fait de la variation brusque de la tension, ça agit aussi sur le débit sanguin qui arrive au nerf optique. C'est ce que nous vivons comme réalité. À partir de 35 ans déjà, il faut faire attention.
D'accord. Rappelons à mes auditeurs qu'aujourd'hui, dans le cadre de sujets de discussion, nous parlons du glaucome. Nous sommes avec des invités justement. Alors, docteur Néant, le glaucome est une maladie chronique de l'œil, ce qui veut dire qu'on l'a à vie. On ne peut pas en guérir.
On ne peut pas en guérir.
Mais il existe des traitements.
Il existe des traitements.
Berry Apollinaire, concernant le volet traitement.
Alors, le traitement qu'on nous donnait, c'était des médicaments pas chers, mais coûteux pour nous. Parce qu'on n'avait pas assez de moyens pour pouvoir acheter des médicaments. C'était un traitement mensuel. Et faute de moyens, la maladie s'est aggravée. Et c'est plus tard que nous sommes rendus compte que dans notre famille, même il y avait ce mal-là. Parce que moi, mon grand-père est décédé aveugle.
D'accord. Est-ce que vous diriez que c'est faute de moyens financiers pour les traitements?
Oui.
Que la maladie a évolué vers la cécité?
Tout à fait au départ, oui.
D'accord. Nguessant à Mont-Louis, dans votre cas?
Pour le traitement, j'ai pas eu de problème pour acheter mes médicaments. Mais sauf, comme on le dit, je suis arrivée un peu tard. Et c'est en 2022 déjà que j'ai perdu la vue. Donc, j'ai suivi mes gouttes comme il fallait. Je suis fonctionnaire quelquefois avec les bons, ça causait beaucoup de problèmes. Mais j'achetais les médicaments moi-même de la poche avant d'attendre que le bon ne soit effectif. Pour le moment, il n'y a plus de problème de bon, mais je suis arrivée un peu tard. Donc, le volet traitement, j'ai suivi mon traitement comme il se devait.
Docteur Néant, vous avez entendu les différents témoignages concernant le traitement. Ils ont également abordé le volet du coût des traitements. Avec les patients, comment ça se passe?
Au niveau du traitement, ce n'est pas facile malheureusement. C'est un traitement à vie et le coût est une grosse barrière. Les médicaments aujourd'hui sont disponibles. C'est des médicaments très performants, mais les prix moyens varient de 8 000 jusqu'à 25 000 francs le flacon.
Pour une durée de combien de temps?
Un mois. Et si vous n'avez pas la chance que vous arriviez à un stade avancé où la tension est très élevée, vous pouvez vous retrouver avec 40 000 francs par mois le traitement. C'est des traitements efficaces, mais qui sont chers.
D'accord. Alors, les traitements sont efficaces pour faire baisser la pression intraoculaire et ne pas évoluer vers la cécité, c'est bien cela. On les prend à vie.
On les prend à vie.
D'accord.
Alors, le traitement, s'il s'avère que malgré les médicaments qui sont les colliers et les comprimés, ça ne va pas, on passe à une autre étape qu'on appelle le laser. Le laser aussi aide à réguler un peu la tension, en faisant baisser la tension. Et quand le laser ne marche pas, on va à la chirurgie.
Et on pratique le laser, la technique du laser en Côte d'Ivoire?
Oui, oui. Bon, peut-être qu'il n'y en a pas assez, mais il y a quelques centres qui sont équipés de laser à Abidjan. Je ne peux pas parler de l'intérieur. Alors, donc, j'étais en train de parler de la chirurgie du glaucome. Alors, il faudrait que les gens comprennent que le glaucome s'opère. Parce qu'il y a vraiment une grande confusion au niveau des patients. Quand on parle du glaucome qui s'opère, ils sont surpris. On opère le glaucome. Si vous êtes à un stade où la vue a atteint un niveau de perte, on ne peut pas vous ramener en arrière. Mais on fait tout pour que vous préservez ce que vous avez. Dans les pays occidentaux, on peut opérer quelqu'un de glaucome 3-4 fois. Voilà un peu.
Qu'en est-il du suivi des patients?
Vous savez, les maladies chroniques, à un moment donné, on est fatigué de prendre des médicaments. Ça peut être lié au coût de la maladie, ça peut être lié au fait qu'on croit qu'on voit bien et on néglige un peu ce traitement. Il faut mettre les gouttes régulièrement. Dans le centre où je suis, tous les malades, on leur demande de venir tous les 4 mois au contrôle. Alors, à l'occasion de ce suivi, c'est pour essentiellement évaluer l'efficacité du traitement en faisant des examens, le champ visuel notamment, et on évalue aussi l'état du nerf optique par un examen qu'on appelle le scanner. Mais il y a le fond d'œil qui est quand même un examen fondamental qui permet au médecin de voir la tête du nerf optique. Et cet examen, on peut le faire à l'intérieur du pays où on n'a pas le scanner. Ça pose un problème aussi quand un malade qui vient de loin, les rendez-vous qu'on lui donne, on reporte, il vit chez des gens. C'est des facteurs de souffrance, de contrariété qui fatiguent énormément le malade glaucomateux. C'est pourquoi on dit qu'il faut sensibiliser les gens pour qu'ils soient pris vraiment précocement, pour que la maladie n'arrive pas à un stade où on est obligé de leur demander de venir 4 mois avec des médicaments qui sont chers, ils font des longs trajets.
D'accord. Nguesson Amon-Louise, quelle est la réalité de la maladie dans votre vie?
Heureusement pour moi, j'ai pu conserver mon emploi. Mais j'ai juste changé de ministère. J'étais au ministère de l'enseignement professionnel, enseignante en technique administrative et bureautique, c'est-à-dire j'enseignais les secrétaires, les assistants de direction. Aujourd'hui, je ne peux plus. Donc, j'ai été reconvertie. Je suis à l'Institut national pour la promotion des aveugles. Mais pour certaines personnes qui sont au privé, ils n'ont pas cette chance. Rester à la maison pendant des années et des années, ça tue. Ça vous rend encore plus malade. Et pour éviter cela, il faut voir un ophtalmologiste 2 fois par an ou alors 1 seule fois par an. C'est la perte de son emploi. Je ne sais pas comment vous allez vivre. Moi, pour mon cas, je dirais que j'ai eu la chance parce que j'ai mes enfants qui ont accepté mon handicap aujourd'hui, qui m'entourent avec beaucoup, beaucoup d'amour. Certaines personnes dans ma famille aussi, mes anciens collègues qui sont là. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas cette chance. Et c'est triste. J'ai rencontré une dame qui me disait qu'elle est sur le point de se faire licencier parce qu'elle est dans un privé. Le secteur privé, je vous interpelle, on peut travailler chez vous pendant peut-être 20 ans ou plus. On a un handicap acquis, ce n'est pas de notre faute. Je pense qu'il faut accepter cette personne, quitte à la faire changer de fonction, quitte à cette personne à être à l'accueil, à former cette personne au braille pour qu'elle puisse revenir travailler avec vous. Remercier cette personne parce qu'aujourd'hui, elle ne voit pas, je dirais que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc le secteur privé, je vous en prie, ne licenciez pas vos employés aveugles dans le cours de leur travail.
Il faut revoir leurs attributions.
Il faut aussi que ces personnes ici aillent aussi se former à l'écriture braille. Parce qu'on ne peut pas revoir vos attributions si vous ne pouvez rien faire. Moi, par exemple, j'ai appris l'écriture braille qui n'est pas du tout facile. Je me suis accrochée et mes enfants, chacun prend le cahier. Ah, mais ça, c'était... Je mets le A, c'est le point 1.
Tout le monde était impliqué.
Oui, tout le monde était impliqué. Jusqu'aujourd'hui, j'ai une petite fille, elle connaît. Elle s'y connaît, elle regarde. Elle dit, non, mémé, je regarde ici. Non, ça, c'est pas ça. Donc, il faut se faire former pour qu'on puisse aussi vous reconvertir. Moi, je me suis fait former. Aujourd'hui, je dis merci.
D'accord. Ouais. On y va avec vous, Berry Apollinaire. Vos réalités, on a entendu sur ce point Nguesson Amon-Louise.
Alors, je voudrais rassurer ma chère sœur pour dire que le gouvernement du Côte d'Ivoire, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, on a mis en place donc 2 commissions. Il y a la COTREP privée et la COTREP publique. Et je fais partie également du comité de gestion du fonds d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc, pour vous dire que on ne va plus licencier systématiquement les personnes qui sont atteintes d'accidents de travail, de maladies invalidantes, mais elles seront, si elles sont dans le public, elles seront reclassées. Dans le privé, elles seront également reclassées. Elles ne pourront pas être l'objet de licenciement.
Abusif, on peut
oui,
le dire.
Oui, abusif si on veut. Mais concernant la question, il a fallu que nous puissions travailler maintenant en tant que fonctionnaire, pour voir la prise d'approche totale pour l'achat des médicaments. La carte TPC qui nous permet donc d'avoir accès à nos médicaments chaque mois et à moins de coûts. Donc ça permet de stabiliser un peu notre mal. Et puis bon, mais Voilà, on vit avec. Même si on ne voit plus, on n'a pas mal non plus.
D'accord. Docteur Néon voulait réagir.
C'est ça. Je voudrais revenir sur le traitement.
D'accord.
Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on dispose de grandes molécules qui sont efficaces, mais ce ne serait pas bien aussi de ne pas parler des effets secondaires. Les médicaments que les malades utilisent ont beaucoup d'effets secondaires. Ça donne des rougeurs de l'œil, des picotements. Vraiment, les effets secondaires, on ne peut pas savoir comment chacun peut réagir. Au point que certains malades arrêtent de mettre les gouttes à cause des effets secondaires. Et ce que je voulais dire, si vous prenez les médicaments du glaucome et que vous ne supportez pas les médicaments, il faut retourner voir le docteur pour qu'il vous donne des médicaments qui vous conviennent. Et une autre réalité, s'il vous arrive de perdre la vue, il faut continuer à mettre les gouttes, sinon la pression va continuer à monter et vous allez basculer dans une pathologie qu'on appelle le glaucome néovasculaire. Le glaucome néovasculaire, c'est quelque chose d'affreux parce que vous ne voyez pas et vous ne dormez pas à cause des douleurs dans les yeux et les médecins ne peuvent pas faire grand-chose. C'est vrai qu'il y a des théories qui existent, mais en termes de la disparition de la douleur, c'est quelque chose de pénible. Alors, les médicaments coûtent cher, vous ne les voyez pas. Si vous n'avez pas la chance que ce sont des gens qui vous aident à citer les médicaments, un moment donné, ils se découragent, tu ne vois pas, il faut sortir l'argent tous les jours pour payer les médicaments. Tout cela, on peut l'éviter grâce à la simplification que vous menez aujourd'hui. Si les gens arrivent très tôt, au stade du début, pour qu'on puisse vraiment les dépister, les augmenter. Si maintenant, il vous arrive de devenir aveugle, il y a des malades qui vivent aussi une situation difficile, qu'on appelle le syndrome de Bonnet. Ce sont des hallucinations qu'ils ont. C'est quelque chose d'affreux aussi. Ils voient des choses. Pendant longtemps, on a pensé que c'était un peu la folie, mais ce n'est pas du tout la folie. C'est du fait d'avoir perdu la vue, ces hallucinations leur arrivent.
D'accord, merci pour ces différentes précisions, docteur Néon Kouya. Alors, Nathalie, vous êtes du programme national de la santé oculaire.
Tout à fait.
Vous avez entendu également les différents témoignages sur les difficultés, justement, en rapport avec le glaucome qui évolue vers la cécité. Nos différents intervenants ont pointé du doigt le coût élevé du traitement.
Oui.
Alors, c'est vrai que dans leur cas, ils ont des appuis, notamment par rapport aux différentes prises en charge qu'ils ont. Mais pour les personnes qui ne sont pas fonctionnaires ni dans le privé, ni dans le public.
Oui.
Comment ça se passe? Est-ce qu'au niveau du programme national de la santé oculaire, vous avez pensé entre griffes à ces personnes?
Nous dirons oui. Il faut dire que le programme national de la santé oculaire a été créé pour faire face à toutes ces difficultés-là. Et donc, par rapport à ça, nous avons déjà enclenché le processus pour toutes les pathologies prioritaires en santé oculaire, dont le glaucome. Nous avons plusieurs pathologies déjà, mais comme aujourd'hui nous parlons du glaucome,
spécifiquement,
nous allons dire ce qui est fait.
D'accord.
Nous avons déjà fait des plaidoyers à travers des ateliers pour pouvoir agir déjà sur les médicaments.
Agir de quelle façon?
Agir, c'est-à-dire, il y a tout un processus.
D'accord.
Et il est long.
Je peux
l'expliquer.
D'accord, de façon assez brève.
Voilà. C'est-à-dire que nous devons déjà d'abord inscrire le glaucome ou bien les pathologies de santé oculaire sur la liste des maladies prioritaires au niveau de la direction de la science pharmaceutique. Et quand c'est inscrit, nous devons maintenant inscrire les médicaments sur la liste des médicaments essentiels. Et quand c'est fait, maintenant on va agir à un autre niveau, aller au niveau de la CMU et de la CNAM. C'est d'inscrire toutes ces pathologies-là maintenant au niveau de leur panier de soins. Ça dit, c'est des plaidoyers jusqu'à la prise en charge. Ce que l'OMS recommande à chaque pays, c'est de pouvoir agir sur les risques financiers liés à tout ce qui est glaucome et autres. Comme ils l'ont dit, ça coûte cher, on doit pouvoir agir là-dessus. Et agir aussi maintenant sur la prise en charge, de sorte à ce que cette prise en charge-là soit au moins de 75%. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut encore que l'offre de soins soit rapprochée des populations. Monsieur Beyri ou Madame Guessin, ils ont eu la chance d'être à Abidjan, en ville. Et pour les populations rurales, c'est toute la population, c'est pas seulement ceux qui sont en ville. Et donc, rapprocher l'offre de soins de ces populations, ce qui est en train d'être fait. Parce que l'État, à travers le ministère de la Santé, a divisé toute la Côte d'Ivoire en 10 pôles régionaux d'excellence santé. De sorte à ce que un citoyen lambda, qui est peut-être au nord-est, n'ait pas à se déplacer jusqu'à venir à Abidjan pour un simple champ visuel. En fait, c'est d'équiper tous ces 10 pôles-là, d'améliorer les plateaux pour que ces populations-là n'aient pas à connaître tous ces délais de transport. Et puis bon, on ne connaît personne peut-être à Abidjan. Tout ça, c'est des risques financiers. Et donc, les 10 presses existent. L'équipement est en train de suivre. Et récemment, avec le ministre de la Santé, le programme de la santé oculaire et l'école d'ophtalmologie, le DS d'ophtalmologie et la CIO, ont créé un GTT pour régler cette question-là de la disponibilité de l'offre de soins des médecins pour consulter du plateau technique, c'est-à-dire l'équipement, tout ça, pour que ces personnes-là ne puissent pas quitter tout en leur zone pour venir. Nous allons aussi voir au niveau des médicaments. Ce que nous faisons, c'est de rendre disponibles ces médicaments-là au niveau de la PSP afin que la PSP puisse les acheminer jusqu'au niveau régional et même jusqu'au niveau des centres de santé pour que ces populations-là puissent avoir accès à ces médicaments.
À l'intérieur du pays.
Voilà, à l'intérieur du pays. Donc, c'est tout ce qui est en train d'être fait. Malheureusement, c'est long. C'est un processus. Vous voyez, tout ce que j'ai cité, c'est pas aisé. Nous avons déjà mis dans le système et nous espérons que ça ne sera pas aussi long pour que nos populations puissent bénéficier de cela. Et donc, nous sommes au travail, nous sommes en train de travailler pour le bien-être de ces populations-là.
C'est bien noté.
Au niveau du programme de la santé oculaire.
C'est bien noté, Nathalie. Merci. Docteur Néan Kouya, en plus d'être ophtalmologiste, vous êtes le président de l'Association des personnes atteintes de pathologies à cécité évitable de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau, au niveau de l'association?
Effectivement, nous, on est vraiment axé sur la sensibilisation. On avait fait notre sortie de lancement qui était vraiment axé sur la sensibilisation pour expliquer. Donc, c'est la sensibilisation essentiellement. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, le 9 octobre cette année, qui est la journée mondiale de la vue, on va encore mener une action de sensibilisation. Comme tout cela aussi demande des financements, donc c'est pas toujours facile de faire des levées de fonds. Il y a un point sur lequel je voulais venir. L'attention qui est le facteur de risque essentiel varie dans la journée. Donc, vous pouvez voir Dr Kwame à 9h, vous dites, ah, vous avez 18, faites attention, vous êtes en train d'approcher les chiffres maximaux. Et puis, vous allez voir un autre médecin quelques jours après à 16h, il dit non, l'attention est normale. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, si un médecin attire votre attention, comme quoi vous pouvez faire le glaucome, n'hésitez pas à voir d'autres médecins pour un avis, second avis. Et mieux même, si vous êtes au-delà de 40 ans, la prudence exige que au moins une fois de l'année, vous allez voir le médecin pour dire, moi je viens faire le point où j'en suis. Ça peut se transformer en glaucome, comme ça peut évoluer normalement sans que ça devienne un glaucome. Et ça, c'est très important. Donc, il faut aller régulièrement se faire voir et poser la question au médecin, est-ce que j'ai le glaucome? Bon, des fois, c'est pas bien vécu par le médecin, comme si vous voulez lui apprendre son métier.
Exactement.
Mais dans la vie, moi, je pense que faut pas se gêner à défendre ce qui vous arrange. Hein. Oui, la vie est comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Absolument.
Et si vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous arranger, posez la question.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Dr Néan Kouya, pour tout ce que vous partagez avec nous. Nous sommes à la fin de l'émission. On va faire un tour de table pour les différents appels à lancer, les mots de fin. Béry Apollinaire.
Je voudrais donc demander à nos amis qui ont un petit souci de santé au niveau de l'œil de se rapprocher automatiquement d'un centre de santé pour pouvoir se faire diagnostiquer par un médecin et puis se faire référer à un autre spécialiste. On voudrait donc encourager nos amis à fréquenter des centres hospitaliers.
D'accord. Guessoir, non, Louise.
Pour ma part, je voudrais interpeller tous les auditeurs et auditrices qu'ils fassent un bilan des yeux chaque année, ne serait-ce que deux fois par an, pour éviter cette maladie grave qu'est le glaucome, qui est une maladie vraiment, je dirais, gênante, qu'on voit un jour et puis un matin, on se retrouve qu'on a perdu la vue. C'est difficile. C'est vraiment difficile, c'est difficile pour votre entourage, c'est difficile pour vous-même. Et pour éviter cela, il faudrait vraiment se faire consulter chaque année, de faire un bilan. De la même manière, nous faisons un bilan de santé pour le reste du corps, il faut qu'on fasse aussi un bilan pour les yeux. Et les yeux, c'est la vie. Les yeux, c'est la vie. Sans les yeux, nous ne pouvons rien faire. Mais aujourd'hui, grâce au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, avec le privé, comme l'a dit M. Beiri, avec les formations aussi que nous faisons pour le braille, nous arrivons aujourd'hui à sourire, je veux dire. Donc, il faut aller voir un médecin. N'hésitez pas. Aujourd'hui, il y a les ophtalmologistes partout. Que ce soit au public, ils sont accessibles. Je dirais pour Abidjan, ils sont accessibles. Donc, à l'intérieur, je ne connais pas, mais à Abidjan, ils sont acceptés. Si vous n'avez pas l'argent pour aller dans un privé, il faut aller au pupille. Donc, il faut le faire tous les ans. Je vous remercie.
C'est vous que nous remercions, Nguesson Amand-Louise. Ta Nathalie.
Merci. Je voudrais m'adresser à plusieurs parties prenantes. Je voudrais d'abord m'adresser à ces personnes-là qui ne se savent pas encore glaucomateuses ou pas. C'est-à-dire, le glaucome découvert précocement, la vue peut être préservée. Et il faut dire que quand le diagnostic est posé, sachez que le traitement, il est à vie. Il ne s'agit pas de l'interrompre. Que vous voyez ou que vous ne voyez plus, vous devez continuer et le contrôle et les médicaments. Je voudrais aussi m'adresser aux professionnels de la santé qui souvent pourraient passer à côté d'un autre type de glaucome chez les enfants, le glaucome congénital. Il faut dire que pour un enfant qui naît en salle d'accouchement, je voudrais interpeller la sage-femme ou l'infirmier, ça peut être dans un village, ou l'infirmier qui a fait l'accouchement. Mais ses yeux que vous voyez, un enfant qui naît avec de gros yeux, vous les voyez beaux, mais ils peuvent être source de problèmes. Ça peut cacher un glaucome congénital. Et si rien n'est fait, cet enfant-là, certainement qu'il ne va pas atteindre les 5 années de vie. Et donc, de faire vraiment attention, orienter ses parents-là pour ne pas compliquer le cas de cet enfant. Parce qu'il y a le pédiatre aussi qui voit cet enfant très tôt. Il y a tous les professionnels, en dehors même des ophtalmologistes. On dirait qu'eux, ils sont préparés, ils sont prêts, ils connaissent. Mais pour les autres professionnels, ils ne pensent pas tout de suite au glaucome congénital. Et ils passent à côté. « Ah, votre enfant a des beaux yeux, c'est grand, il a commencé blanc autour. » Mais c'est des yeux qui pourraient être un problème. Donc, à ces professionnels-là, c'est d'orienter juste les parents chez l'ophtalmologiste pour voir si cet enfant-là, les beaux yeux que nous voyons ne sont pas un problème. Aussi, rassurer la population et dire qu'au niveau de la lutte contre les pathologies oculaires, du travail est en train d'être fait. C'est vrai qu'ils nous voient beaucoup plus en train d'opérer la cataracte, en train d'offrir des lunettes à des élèves, c'est vrai. Mais beaucoup d'autres choses sont en train d'être faites et ces populations-là sentiront très bientôt les actions que l'État a menées dans le secret pour elles.
D'accord.
Je vous remercie.
C'est vous que nous remercions. Docteur Néankouya, on va terminer par vous en termes de recommandations aux populations qui nous écoutent.
Alors, il y a un aspect du traitement que je n'ai pas évoqué.
Allez-y rapidement.
C'est l'hygiène de vie. Alors, il y a des aliments qui aident aussi à la santé de l'œil. Les légumes, les fruits.
Est-ce que c'est vrai, docteur, excusez-moi, est-ce que c'est vrai que la carotte...
Vous avez... la carotte agit la carotte beaucoup plus agit. Au niveau de la rétine.
D'accord.
Les autres aliments, les oignons, persil, c'est mieux même de voir un nutritionniste pour qu'il vous aide à consommer ce qu'on appelle les antioxydants qui font vraiment les refaits. C'est sur le long terme que ça fait les refaits. Et puis, dans les habitudes qu'on a aussi, pour ceux qui sont glaucomateux ou bien qui ont eu des parents glaucomateux, leur consommation de café doit diminuer. C'est prouvé maintenant qu'un abus de café peut quand même augmenter la pression.
Quand vous parlez d'abus...
Mais écoutez, quelqu'un qui prend 6 tasses par jour, si c'est une seule tasse le matin, il n'y a pas de problème. Les études sont là pour prouver que le café à consommation exagérée, ce n'est pas conseillé.
D'accord.
Et puis aussi, il y a certaines personnes, pour des raisons diverses, qui boivent l'eau 1,5 litre en peu de temps. Ce n'est pas conseillé aussi. Ça peut facilement faire monter la tension. Il faut boire l'eau progressivement. Souvent, on conseille aux gens...
Bien répartir la consommation d'eau.
Il faut bien répartir. Mm-hmm. On conseille aux gens de boire. Bon, je ne sais pas si c'est lié au temps. Les gens qui préfèrent peut-être ne pas perdre de temps, qui boivent facilement...
Puisqu'on recommande de boire 1,5 litre par jour au moins, donc...
Oui, il ne faudrait pas qu'il y ait encore un problème de compréhension. Ce n'est pas mauvais de boire, mm-hmm. mais c'est le fait de répartir ça dans le temps. Si on prend 1,5 litre en une demi-heure, ce n'est pas bon pour les yeux. Si on prend 1,5 litre sur les 24 heures, ce n'est pas un problème. C'est le volume, le corps absorbe en peu de temps, qui fatigue la pression au niveau de l'œil. Alors, en dehors des aliments, il y a aussi les exercices. C'est prouvé maintenant que quand on marche, ça contribue à ralentir l'évolution de la maladie. En fait, j'ai parlé de la tension qui abîme le nerf optique, mais derrière, il y a le sang qui envoie les nutriments au nerf optique. Et ce sang-là, quand il est bien composé en termes de nutriments, nourrit aussi le nerf optique et les cellules nerveuses de l'œil. Donc pour cela, il faut marcher. C'est la marche dynamique là qui peut faire quelque chose. Alors pour terminer, vraiment faites examiner vos yeux parce que le glaucome peut vous rendre aveugle sans que vous vous rendez compte. La santé de l'œil C'est vraiment primordial.
Merci à vous, docteur Néan Kouya. On rappelle que vous êtes médecin colonel ophtalmologiste, par ailleurs président de l'Association des personnes atteintes de pathologies cécitantes évitables de Côte d'Ivoire. Avec vous aujourd'hui pour parler du glaucome, Tana Nathalie du Programme national de la santé oculaire et pour leurs différents témoignages, Béhiri Apollinaire de la Fédération des aveugles et mouvements associés de Côte d'Ivoire et Nguessan Amon-Louis. Encore merci d'être venu sur notre plateau pour aborder ce sujet.
Merci, Madame Sonia.
Merci, Madame Sonia et à Radio de la Paix aussi.
Merci infiniment, Madame Sonia.
Je vous en prie.